Il est parti voter. J'ai envoyé voter. Stop. Bon, bien. Bonsoir tout le monde. Le thème de notre étude, comme vous le savez, c'est Hanouka, liberté et lumière. La question qui se pose. Ah, une seconde, il faut que je mette ça.
Hanouka, liberté.
Une seconde. Maintenant, ça va? Vous entendez? Ah. Bon, bonsoir. Le thème de notre étude ce soir, Hanouka, liberté et lumière. Le problème qui se pose, c'est de savoir quelle est l'origine de la fête de Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on fait cette fête? Question qui a l'air banale, mais en fait, elle n'est pas évidente du tout. Par exemple, pour la fête de Pessah, tout le monde sait très bien, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte, ou la fête de Shavuot, parce qu'on a reçu la Torah. Et pour ce qui est de la fête de Hanouka, étant donné que ce n'est pas mentionné dans la Torah, ni même dans le Tanakh, donc la question se pose de savoir pourquoi est-ce qu'on fait la fête de Hanouka. La réponse la plus banale, mais la plus fausse, c'est l'histoire de la fiole d'huile, n'est-ce pas? C'est qui se coupe du monde, en fait, de se fiche de notre fiole, parce qu'en fait, quand on étudie les textes, on se rend compte que ce qu'on appelle le miracle de la fiole d'huile, bien que étant un fait historique, est quelque chose de totalement secondaire quand on étudie l'histoire de Hanouka. En effet, il suffit de lire, par exemple, dans le livre des Maccabées, en hébreu Maccabée, Mouchach Monaïm, aussi bien dans le premier que dans le deuxième, le miracle de la fiole d'huile n'est pas mentionné. On peut lire également dans la Mishnah qui mentionne dans six endroits différents, il n'y a pas de traité de Hanouka, il n'y a pas de massacre de Hanouka, mais quand même, la fête de Hanouka est mentionnée explicitement dans six endroits différents de la Mishnah. Eh bien, dans les six endroits, il n'est pas question de la fiole d'huile. De même, il y a un livre très ancien, en araméen, qui relate l'histoire de Hanouka. C'est le fameux livre appelé Megillat Antiochos, écrit en araméen, traduit en arabe par Rabbeinu Saadia Gaon. C'est un livre que l'on rapporte, qu'on attribue aux Zikne Beit Shammai Beit Hillel, les anciens de Beit Shammai Beit Hillel. Là-bas également, il n'est pas question de la fiole d'huile, si ce n'est dans une version postérieure de ce texte. Si vous regardez dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud d'Eretz Israël, vous verrez qu'il n'est pas fait mention de la fiole d'huile dans le Yerushalmi. De même, si vous étudiez le premier livre qui a été écrit après le Talmud,
le premier livre de Halakha qui a été écrit après le Talmud, c'est lequel en fait?
Quel est le premier livre de Halakha rédigé après le Talmud?
Le Shulchan Aruch a été écrit 1000 ans après le Talmud. Ça serait donc un peu énorme de penser que c'est le premier livre de Halakha écrit après le Talmud.
Quel livre? Quel livre? Je cherche un livre.
Le tour a été écrit quelque chose comme. Non, pas du tout. 850 ans après la clôture du Talmud. Donc ça serait un peu énorme de penser que le tour, c'est le premier livre de la Halakha et le Talmud du Tomaï.
Bah, c'est tout bête, c'est le She'iltot. Il y a un livre qu'on appelle She'iltot, auteur Rav Achai Gaon,
qui a été écrit 250 ans après le Talmud. N'est-ce pas? C'est le premier ouvrage de Halakha ordonné, écrit par les rabbins après la clôture du Talmud.
Il y a là-bas une quantité énorme de textes sur Hanouka. C'est distribué sur les parachas de la semaine, sur la paracha de Vayeshev. Il y a là-bas tout un très long texte de Halakha et de Haggadah sur Hanouka, qui parle de tout sauf d'une chose, du miracle de la fiole. Il parle des guerres, il parle de tas de choses qui sont passées, il parle de la fiole.
C'est quand même surprenant.
Si vous regardez dans le livre Antiquité judaïque
de Flavius Joseph, qui vivait encore à l'époque du Beit Hamikdash, quand il parle de l'histoire des Maccabées,
il décrit ça très longuement, il parle de la restauration du culte dans le temple de Jérusalem, et il rappelle également que, à la suite de cette histoire, Yehuda Maccabi
a institué une fête de 8 jours. Et que cette fête s'appelle la fête des Lumières.
Ah, quelque chose. L'expression fête des Lumières a son origine dans la vie de Joseph.
Et pourquoi s'appelle-t-elle fête des Lumières? Parce que c'était une grande lumière pour les Juifs d'avoir retrouvé leur indépendance politique et religieuse. Et le miracle de la fiole? Mais il n'en dit rien.
Comme bizarre.
Le seul endroit où finalement ce miracle est mentionné, c'est dans le Talmud Bavli, dans le traité Shabbat, où c'est mentionné presque par hasard.
Alors, ça veut dire quoi?
Eh bien, ça veut dire que la raison véritable de la fête de Hanouka n'est pas le miracle de la fiole. Et ce pour une raison très simple. On n'a jamais vu qu'on institue une fête à cause d'un miracle.
Ça n'existe pas.
Par exemple, vous avez un miracle beaucoup plus important que celui de la fiole de Hanouka.
C'est l'histoire de Elisha, le prophète Elisha.
Il a trouvé une pauvre femme qui n'avait plus rien dans la maison et on voulait prendre, les débiteurs voulaient prendre ses enfants en esclavage et elle implore Elisha. Elisha lui dit, qu'est-ce qu'il te reste dans la maison? Il dit, j'ai un petit peu d'huile, un fond de bouteille. Elisha lui dit, ben c'est pas de problème, tu n'as qu'à prendre tous les ustensiles vides qu'il y a dans ta maison et chez tes voisins, tu amènes tout ça à la maison. Et alors, Elisha commence à verser l'huile et ça remplit tous les ustensiles. Ce qui fait des sommes très importantes. Il lui dit, voilà, maintenant tu peux vendre cette huile et rembourser tes dettes. Il n'y a pas, pour vous comprendre que la quantité d'huile qu'il y a eu là, dépasse de loin l'huile qui a rendu service au Maccabim. Or, il n'y a pas de fête dans le calendrier pour le miracle de l'huile d'Elisha. Pourtant, c'est un miracle plus important que le miracle de Hanouka.
N'est-ce pas?
Pour une raison très simple, c'est que les miracles, on s'en fiche pas mal, enfin presque.
C'est-à-dire, le miracle, c'est intéressant, mais enfin,
la nature, c'est tellement mieux. Vous savez, il y a un texte dans la Guémara qui dit qu'il y avait une fois une femme qui était morte en couche. Et le petit bébé était resté sans sein à téter. Et la Guémara nous dit qu'il y a eu un miracle. Et que des seins ont poussé au père. Et que le père a allaité l'enfant. Et la Guémara dit « Kama garua adam ze » qu'il est méprisable, cet homme-là. Shenishtanu sidre bereshit bishvilo. À cause de lui, l'ordre de la création a été bouleversé. Vous voyez bien que la Guémara n'aime pas les miracles. Comment? On n'aime pas les miracles. Dieu a créé la nature. Pourquoi est-ce que tout ne se produirait pas selon la nature? On voit bien que, historiquement parlant, à chaque fois que la Torah ou les Chachamim ont institué une fête, ce n'est pas parce qu'il y a eu un miracle, mais c'est parce qu'il y a eu un événement qui a concerné la collectivité d'Israël. Quand quelque chose de significatif se passe pour le clan, pour la collectivité, on fait une fête. Quand c'est un événement qui concerne un individu, le miracle peut être gigantesque, on s'en fiche pas mal, on ne fera pas de fête pour ça. L'individu, évidemment, fera la fête pour lui-même. Mais on ne fera pas une fête qui engage le clan d'Israël. Donc, ce qui est important lors de l'histoire de Hanouka, ce n'est pas le miracle de la fiole. Alors, c'est quoi?
J'ai d'autres questions.
Eh bien, il faut pour cela consulter le Rambam. Que nous dit le Rambam? Quelle est la raison de Hanouka? Il y a des choses parfois qui méritent d'être étudiées. Je regarde. Ah ben non, je me suis trompé de volume. Je me suis planté. Est-ce que quelqu'un, tu peux m'amener le volume où écrit Zmanim? Je vais t'orienter vers la droite, chaud. Voilà, un peu plus à droite, encore, stop. Là, voilà, ta main gauche, tu vois le volume où il y a écrit Zmanim. Tu peux même te dépêcher. J'espère que ça ne fait pas trop d'efforts. Merci, tu es trop bon.
Ce code, votre souvenir, je vous ai dit. Je
souvenir. La fête de Soukhot, c'est le souvenir de l'indépendance nationale. Je vais vous lire ici dans le Hilchot Hanouka de Rambam, Maïmonide, dans le chapitre 3. Bebaït Sheni, Keshemalche Yavan Gazrou Gezerot al Israël. À l'époque du deuxième temple, lorsque les rois grecs ont fait des décrets contre Israël. D'ailleurs, ce texte est bien connu. Il est cité également dans un livre encore plus connu, le Mishnah Brura. Vous connaissez le Mishnah Brura ? Livre de Halakha, notoire. Le texte est cité, mais déformé. Là-bas, le Hafetz Chaim dit « Keshe malcho malche risha » lorsque des rois méchants régnaient. Le lecteur ne sait pas s'il s'agit de rois juifs ou de rois goy. Il faut revenir au Rambam pour comprendre que ce sont des rois étrangers. Très important. Ils ont aboli leur loi et ne les ont pas laissé étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Ils se sont emparés de leurs biens et de leurs filles. Ils sont rentrés dans le sanctuaire. Ils ont fait des brèches. Vetimu atavarot et ont souillé ce qui est pur. Vetzar lahem le Israël mehod mipenehem et les Juifs ont beaucoup souffert à cause d'eux. Ulchatsum lachatz gadol, ils étaient fortement opprimés. Ad sherichem alehem Elohe avotem jusqu'à ce que le Dieu de nos pères les ait pris en pitié. Veoshiram miyadam et les a sauvés de leurs mains. Vehitzilam et les a libérés. Ah donc c'est que Dieu les a libérés. Ah bon? Comment? Vegavru bene chashmona yakoani magdolim veharagum veoshiu Israël miyadam. Et les fils de Chashmonaï, qui étaient des grands prêtres, les ont tués et ont sauvé Israël de leurs mains. Ça veut donc dire quoi? Quand on dit que Dieu a sauvé, ça veut dire quoi? Que Tzahal a gagné.
C'est ce qu'il a écrit, n'est-ce pas?
Il dit, comment est-ce que Dieu les a sauvés? Eh bien, quand les Hashmonaïm ont tué les ennemis. Conclusion, quand on dit intervention d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire victoire de Tzahal. Ve'elminu melech min ha-Kohanim, ils ont mis en place un roi parmi les Kohanim. Vehazra malchut de Israël et l'indépendance est revenue à Israël. Yeter al matayim shana pendant plus de 200 ans. Adar urban hasheni jusqu'à la deuxième destruction. Conclusion. Quelle est la raison Hanouka d'après le Rambam? Le retour de l'indépendance. C'est tout bête. C'est-à-dire Hanouka, c'est la fête d'indépendance. Combien de fêtes d'indépendance avons-nous dans le calendrier? Trois. Parce que nous avons trois fois eu l'indépendance. La première fois, c'est en sortant d'Égypte. Nous avons une fête d'indépendance, Pessah. La deuxième fois, lorsque nous avons été libérés des Grecs, donc une fête d'indépendance, Hanouka. Et la troisième fois, lorsque nous avons été libérés du joug britannique, et nous avons une troisième fête d'indépendance, Yom HaTzmaout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de permanence dans le calendrier hébraïque, chaque fois que nous retrouvons l'indépendance politique, eh bien, il y a une fête. Dit le Rambam, c'est vraiment bien inventé. Petite remarque, l'indépendance en question dont il est question ici, la Chazra Malchut Israël, la royauté est revenue à Israël pendant 200 ans, dit-il. Qui est-ce qui a régné pendant les 200 ans? Les pires scélérats de notre histoire. Ah oui, Hérode, qui était un beau salaud, qui a assassiné les rabbins. Il y avait quand même Alexandre d'Eriana, et en français Jeannet Alexandre, qui lui aussi a mis en place les Sadducéens dans le Sanhédrin. Et puis vous avez également Yohanan Horkenos, qui a tué son frère et affamé sa mère. Et puis vous avez
encore de d'autres comme ça, mais enfin.
Il y avait des débauchés, des assassins. C'est ça, les rois d'Israël
En l'honneur desquels nous faisons la fête de Hanouka.
Comme quoi, il vaut mieux être sous la domination des pires des juifs que sous la domination des meilleurs des colis. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec l'actualité, évidemment. Mais vous comprenez que la fête de Hanouka met en exergue cette idée que il faut remercier l'Éternel de nous avoir donné des rois à nous, quel que soit leur comportement. Et la fiole d'huile alors? Et la fiole alors? La fiole d'huile, où est-ce qu'elle est dans tout ça? Continuons dans le Rambam. Deuxième à la fin. Pour chez Gavou, Israël a levé l'air de Yibdoum. Lorsqu'Israël a amené la perdition de ses ennemis, c'était le 25 du mois de Kislev. Venir Nesoula Echad de l'Omatrouchemet d'Aor Bamikdash. Ils sont rentrés dans le sanctuaire et n'ont pas trouvé d'huile pure dans le temple. Et là, par Echad, il n'y avait qu'une petite fiole. Velo Yaboulé que la Yom Echad Bilbad. Qui ne suffisait à allumer que pour un seul jour. Vidlikum imenu nerota malcha shmona yamim. Et ils ont quand même pu allumer les lumières de la menorah pendant 8 jours. Hachekachu zetim, jusqu'à ce qu'ils aient concassé des olives, veotzimu shemetaor. Et ils ont donné une huile pure. Donc ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de Hanouka, il s'est passé deux choses. La première, l'indépendance politique. Et puis, en plus de cela, dit Maïmonide, il y a eu encore autre chose. Il y a eu la fiole d'huile. Mais ce n'est pas la fiole qui est la raison de la fête. Vous comprenez bien. Umibneze, itkinu chachamim chez Boto Ador. Et donc, combien de miracles il y a eu? Une allusion, je vous fais. Combien de miracles il y a eu?
Deux.
Très bien, deux. Le premier. Comment tu as su? Le premier. Non, tout simplement, c'est ce que j'ai dit. D'abord, il y a eu l'indépendance, qui est essentielle, et puis en plus de ça, il y a eu l'histoire de la fiole. À cause de ça, de Maïmonide, les rabbins de l'époque ont institué deux mitzvot. L'une, le Hallel, et le deuxième, les bougies, les lumières de Hanouka. Pourquoi deux? Pourquoi deux mitzvot? Parce que les deux miracles. Laquelle des deux mitzvot a un rapport avec la fiole d'huile? Les lumières, évidemment, les lumières à cause de l'huile. Alors la laine, c'est à cause de quoi? De l'indépendance. Ce qui prouve donc qu'à chaque fois qu'il y a indépendance, on dit le halal. N'est-ce pas? Ce qui vous explique pourquoi nous disons le halal à Pessah. Parce que c'est une fête d'indépendance. Et pourquoi nous disons le halal à Hanouka? Parce que c'est une fête d'indépendance. Et pourquoi nous ne disons pas le halal à Yom HaAtzmaout? Puisque c'est une fête d'indépendance. Ah, on le dit? Ah oui, c'est vrai, il faut le dire, c'est vrai. J'ai oublié, il y a des rabbins qui m'ont oublié. Mais est-ce que vous dites la bracha à Hanouka sur le Hallel? Oui, alors pourquoi pas à Yom HaAtzmaout? Très bien, il faut la dire, il y a bien. Ouais, c'est tout simple. C'est très très bien, c'est très très bien. Vous dites la bracha sur le Hallel et Yom HaAtzmaout, c'est bien. Vous avez un grand mérite devant l'Éternel. N'oubliez pas également de dire le Hallel le soir aussi. Oui, mais d'accord? Enfin, tout ça, ça n'a rien à voir avec Hanouka, vous allez me dire. Bon, maintenant. Le problème est que, si c'est vrai ce que je dis là, alors dans la conscience des Juifs, pourtant pendant des siècles et des siècles, on a parlé de la fiole plus que de l'indépendance. Il doit bien y avoir une raison à cela. Vous comprenez mon problème? Si c'est vrai ce que je dis, que Hanouka c'est une fête d'indépendance politique, pourquoi mettons au centre de tout cela la fiole d'huile? Pourquoi est-ce que l'allumage des lumières est plus considéré que dire le Hallel, alors que le Hallel est plus important? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que l'État des Maccabées a été détruit. Et donc, a priori, on aurait dû annuler la fête de Hanouka. Parce qu'à quoi ça rime, à quoi ça sert de célébrer une indépendance qui a disparu? Donc, on aurait dû, une fois la destruction du, une fois l'État détruit, on aurait dû supprimer la fête. Alors pourquoi est-ce qu'on a quand même continué à la faire? à cause de la fiole. C'est-à-dire la fiole d'huile était un indice, un symptôme qui nous a prouvé que bien que la fête de Hanouka n'avait plus son signification politique, elle continuait à avoir une signification spirituelle puisqu'il y a eu cet élément de la fiole d'huile. Voyez-vous ? Jusque-là, vous suivez ? Parce que là, je vais compliquer les choses. Je vais vraiment compliquer les choses. Bon.
Petite question. Quel est le jour dans le calendrier où nous faisons la fête de Hanouka ?
Le 25 Kislev. C'est très très bien. C'est vrai ce que vous dites. Mais pourquoi le 25 Kislev ? Hein ? C'est là qu'on a inauguré le temple, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a eu purification du temple, inauguration du temple,
le 25 Kislev. C'est fait ?
Il y a eu donc inauguration. La brioche. Il y a donc une inauguration du temple le 25 qui se lève. Mais cette réponse, tout en étant vraie, me fait poser une autre question.
Pourquoi est-ce que les Hashmonaïm
ont décidé de faire l'inauguration du temple le 25 qui se lève ? Essaye de rétablir dans l'Antiquité quelque chose qui s'est passé plus tard. Donc il faut chercher une raison plus convaincante. Je ne dis pas ce que vous dites est faux, mais je cherche quelque chose de plus tangible. Eh bien, il suffit pour ça de lire dans le livre des Maccabées. Dans le livre des Maccabées, il est dit en toutes lettres que le jour du 25 qui se lève, c'était 3 ans exactement, jour pour jour, après la souillure du temple, la profanation du temple par Antiochus, Épiphane. Voilà.
C'est-à-dire que
le 25 du mois de Kislev, Antiochus avait décidé d'établir dans le temple de Jérusalem un autre temple pour
son idole,
pour Zeus, son dieu à lui. Et c'est ce jour-là qu'il a présenté un porc, un cochon, sur l'autel. Donc, en réaction à ce qu'avait fait Antiochus, les Juifs ont rétabli le culte le 25 Kislev. Ça veut donc dire qu'avant la fête de Hanouka des Hashmonaïm, il y avait une fête de Hanouka que faisait Antiochus. Il fêtait l'inauguration de son temple païen chaque année, le 25 Kislev. Donc la fête de Hanouka des Hashmonaïm fait le contre-pied à une fête de Hanouka païenne antérieure. Mais tout cela est quand même sympathique, mais ça fait poser quand même une autre question. Pourquoi est-ce que Antiochus a décidé d'inaugurer son temple païen dans le Beth Amikdash le 25 Kislev ? Pas du tout. Le 25 Kislev, il l'a fait tout simplement parce que c'était la fête de Hanouka. C'était la fête de l'inauguration du deuxième temple. C'est-à-dire, lorsque les constructeurs du deuxième temple ont inauguré l'autel, c'est écrit en toutes lettres dans le livre de Haggai que ça s'est fait le 25 Kislev. Donc, chaque année, les Juifs, avant les Grecs, avaient une fête. Le 25 qui se lève, qui était une fête d'inauguration du temple. Donc il y avait une fête de Hanouka antérieure à la fête de Hanouka d'Antiochus, qui elle-même était antérieure à la fête de Hanouka des Hashmonaïm.
Donc ce n'est pas forcément le contre-pied de...
C'était le contre-pied du contre-pied.
Et oui, d'accord. C'était donc, on peut imaginer que c'était la suite des 25 qui se lèvent,
oui.
D'avant.
Oui, exactement. Voilà. C'est-à-dire, il y avait donc le 25 qui se lève d'avant, des fondateurs du deuxième temple, profané le 25 qui se lève par Antiochus, et en réaction, on refait la fête et le 25 qui se lève. Ah, très bonne question. Ça, je n'ai pas pensé à ça. Pourquoi est-ce que les fondateurs du deuxième temple ont-ils décidé de faire la fondation du deuxième temple le 25 qui se lève ? Ils Ils auraient dû faire ça en Israël. Pourquoi ils ont fait ça le 25 Kislev? Il doit bien avoir une raison. Je vais vous dire quelque chose. Pour ce qui est du 25 Kislev, il y a une signification à cette date, Minatora, du point de vue de la Torah elle-même. Il y a un commandement bien connu, c'est celui des Bikurim. Bikurim, les prémices qu'on amène au Beth Amikdash. Quand est-ce qu'on les amène en fait? Pas du tout. On les amène à partir de Shavuot. C'est-à-dire à partir de la fête de Shavuot, on peut amener les prémices au temple. Les prémices de quels fruits d'ailleurs? Des sept espèces qui sont la branche des Rétisraël, n'est-ce pas? Qui sont le blé, l'orge, la vigne, les grenades, les figues, tout leur, les olives, les dattes, n'est-ce pas? Eretz, Srita, Oseora, Gefen, Utena, Verim. Donc vous avez les sept espèces, on peut amener les prémices au Beth Amikdash. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut les amener? Jusqu'à Soukhot. Tout simplement, parce que Shavuot, c'est là que ça commence. Soukhot, c'est Chagasim, c'est la fête de l'engrangement. Il n'y a pas de prémices qui tiennent. Le problème, qu'est-ce qu'on fait si on a des arbres qui ont donné des fruits après Soukhot? Alors là, la Mishnah nous dit, si les arbres ont donné des bikurim après Soukhot, on peut les amener jusqu'au 25 Kislev. Maintenant, la question qui se pose, quels sont les sept, dans les sept espèces, quel est le fruit? Quel est l'arbre qui ne donne ses fruits qu'après Soukhot? L'olivier. Donc, si vous reprenez ce qui se passait à l'époque du premier temple, lorsque nos ancêtres étaient pour la plupart, 97%, ils étaient tous des agriculteurs, donc ils avaient tous des oliviers, presque tous avaient des oliviers. La fête des prémices des oliviers se faisait le 25 Kislev. Elle durait combien de temps? 8 jours, évidemment. Comme la fête de Soukhot. En fait, c'est plus qu'une fête des prémices, c'est une fête de l'engrangement. C'est le parallèle de la fête de Soukhot. Quand on engrange son blé, on fait une fête de 8 jours. Quand on ramène en fer toutes les olives, et bon, on fait une fête de 8 jours. À quoi ça sert les olives, au fait? À faire de l'huile, n'est-ce pas? Eh bien, si vous faites une fête agricole, prenez une société agricole qui veut faire une fête parce qu'elle, de 8 jours, parce qu'elle a enfin ramassé des olives. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on ferait dans une fête pareille? Eh bien, on allumerait des lumières et on ferait des beignets. Des sfenges. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il est tout à fait logique de s'imaginer que dans l'Antiquité, nos ancêtres avaient une fête agricole qui était faite d'allumage des lumières pendant 8 jours et de baigner. Évidemment, on jouait à la toupie parce qu'on restait à la maison puisque c'est l'hiver. N'est-ce pas? Donc, la fête des lumières était bien antérieure à l'inauguration du temple. Maintenant, il faut bien comprendre. Ceux qui ont construit le deuxième temple revenaient de captivité. Ils étaient dans un monde où ils sentaient que la Shekhina était en train de disparaître, puisque les prophètes, la prophétie était en train de s'éteindre. Donc ils avaient le sentiment très net d'entrer dans une période d'obscurité dans l'histoire. Alors c'est quoi le temple dans tout ça? Eh bien c'est une lumière dans l'obscurité. Donc, il était tout à fait logique dans l'esprit des prophètes de faire l'inauguration du deuxième temple lors de la fête des lumières au sein de l'hiver, qui est le moment de l'obscurité. C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer. N'est-ce pas? Et donc, maintenant, donc vous voyez que la fête de Hanouka a des origines très anciennes. Mais si on remonte un peu plus avant, qui serait le premier homme à avoir fait une fête des Lumières le 25 Kislev? Le premier homme, évidemment. N'est-ce pas? C'est écrit en toutes lettres dans la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah. Dans le traité de Avodah Zarah, il y a un texte d'Afret sur la fête des Saturnales. Les Saturnales. Les Saturnales. Dans la Guémara, ils appellent ça par dérision Starnoura, c'est-à-dire le côté du feu. Starnoura, c'est Saturnale. Bon, ou Saturnalia, d'après une certaine version. Eh bien, la Guémara demande d'où elle vient cette fête des Saturnales. La fête des Saturnales était une fête de 8 jours qui se faisait après le solstice d'hiver. N'est-ce pas? Alors, il m'a dit simplement, c'est tout simple. Les fichera Adam Arishon, Yom Shemit Maed Veoler. Le premier homme a vu que les jours allaient en se raccourcissant. C'est-à-dire, La faute du premier homme, c'était quand? À Rosh Hashanah. N'est-ce pas?
Après Rosh Hashanah, il voit que les jours vont en se diminuant.
Amar, oili, il s'est dit, malheur à moi. Shema bishvil shesarachti, olam chashuv ba'adi vechoser le tov avou. Peut-être qu'à cause de mon péché, le monde revient à l'obscurité et revient au néant. Vezoi mita sheniknesa alay min hashamayim. Et c'est cela, la mort, qui a été décrétée contre moi. Amad ve'achar shmona yami betarnit mitfila. Et il s'est installé, il a fait la prière, il a jeûné pendant 8 jours. Kevan sherat ekufat tevet. Et lorsqu'il a vu le solstice d'hiver, c'est quand le solstice d'hiver? Le 21 décembre. Le 21 décembre. Vera yom shemaarif ve'oler. Il a vu que le jour allait en grandissant. Combien de temps ça prend pour se rendre compte que le jour devient plus long?
3-4 jours.
C'est-à-dire qu'il est arrivé au 24 décembre. C'est bien? Le 24 décembre au soir. Amar minago shel olam. Il a dit donc que ça fait partie de la nature. Alach ve'asa shmona yamim tovim. Il en a fait 8 jours de fête. C'est-à-dire, il a institué une fête de 8 jours en l'honneur de la lumière, depuis le soir du 24 décembre jusqu'au 1er janvier. D'accord? Ce qui est à l'origine des fêtes des Saturnales chez les Romains et qui est devenu finalement Noël chez les chrétiens. Petite question, dans le calendrier hébraïque, ça tombe quand le solstice d'hiver? Eh bien, en moyenne.
Théoriquement, ça devrait être le 25 Kislev moins 3 ou 4.
Exactement. Mais ça tombe, disons, de manière. Ben, ça tombe en moyenne le 25 Kislev. Ça veut donc dire qu'il y aurait un rapport entre l'ancêtre de la fête de Noël chez les Goïms et la fête de Hanouka chez les Juifs. Lumière et lumière, et vous savez, les sapins de Noël avec des petites lumières, des bougies, etc.
Pourquoi Noël?
Quoi?
Noël.
Ben, parce que Noël. Et est une continuation chrétienne d'une fête païenne antique, qui était la fête des Saturnales dont la Guémara parle ici. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas un hasard si cette fête chez les Goïms, elle tombe en moyenne à peu près au moment de Hanouka. N'est-ce pas? D'ailleurs, la Guémara continue, elle dit les Shana ha'acheret, l'année à venir, comme la Guémara dit pour Hanouka. Asa'an le'elou, il est yamim tovim, il en a fait des 8 jours de jeûne et des 8 jours de fête, il en a fait des fêtes. Hukvam Beshem Shamaim, lui avait une intention pure pour le ciel. Vehem Kvarum Beshem Avodazara, et eux ils se sont servis pour l'idolâtrie. N'est-ce pas? Donc on voit bien que le premier homme a déjà fait une fête des Lumières le 25 Kislev. Surtout que la première année de l'histoire de l'humanité, il est évident que les calendriers concordaient. Maintenant, si je réfléchis bien, il a fait ça parce qu'il y a abondance de lumière à partir du 25 Kislev. Donc, qui c'est qui a commencé à ajouter de la lumière à partir du 25 Kislev? C'est le Créateur lui-même. Dans l'ordre du monde, il a disposé l'axe du globe terrestre de telle sorte qu'il y a 4 saisons. Et donc, c'est donc Dieu lui-même qui allume ces lumières de Hanouka à partir de ce moment-là. D'ailleurs, remarquez que le mot « lumière » dans la Torah apparaît pour la première fois dans quel verset? Dans le 3e verset. N'est-ce pas? Dans le 3e verset apparaît le mot or, qui veut dire en hébreu lumière. Or, le mois de Kislev, c'est le 3e mois à partir de la création du monde. Combien de mots faut-il compter jusqu'au mot lumière? Il faut en compter 25, n'est-ce pas? Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamaim, Ve, Haaret, Varet, Et, Akeru, ça fait donc 10. Vavou, Vechosher, Al, Pene, Tehom, Verua, Elohim, Rafet, Al, Pene, Sajel, 20, Hamaim, Vayomer, Elohim, Yehi, Or. Et donc vous avez 25 mots pour arriver jusqu'au mot Or. Ce qui veut donc dire que la fête de Hanouka, bien qu'ayant une raison historique, politique, c'est la rencontre, la victoire entre les Grecs, a finalement son origine dans l'ordre de la création. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. Toutes les fêtes du calendrier hébraïque ont une origine cosmique qui se traduit à un moment ou à un autre dans l'histoire. Et à partir du moment où l'événement historique se produit, ça devient une fête qui engage tout Israël. Auparavant, ça ne concerne que quelques initiés. N'est-ce pas? Ce qui est vrai, par exemple, pour la fête même de Pessah, la fête de Yom HaAtzmaout, Yom Hoshana, etc. Tout ça, nous avons des origines cosmiques à ces dates-là. Mais finalement, on attend le moment de l'événement historique qui justifie, dans de faire ça, de ça une fête contraignante. Maintenant, j'ai un petit problème dans tout ce que je vous ai dit, parce que si vous réfléchissez bien, la raison de la fête de Hanouka dans la plus haute antiquité, ce n'était pas la victoire, c'était quoi? C'était la lumière. Donc, quand je vous dis l'histoire de la fiole d'huile, que c'est secondaire, c'est pas vrai. On voit que la fiole d'huile, elle correspond tout à fait à la nature véritable de la fête. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où la fête de Hanouka est fêtée à cause de la lumière, et d'autres moments où c'est fêté pour des raisons politiques. Alors, en fait, on peut résumer ça en quatre périodes. Depuis la création du monde jusqu'au Hashmonaïm, la raison de la fête, c'est la lumière. Depuis la victoire des Hashmonaïm jusqu'à la destruction du temple, c'est la victoire. Depuis la destruction du temple jusqu'à 1918, la raison, c'est la lumière. Parce qu'on en doute. À partir de Hanouka de l'année 1918, c'est redevenu une raison politique. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la fête de Hanouka en 1918? Non, enfin 1917 plus précisément. Pas du tout. La déclaration de Balfour, c'est avant.
Congrès de Bâle.
Pas du tout. La congrès de Bâle, c'était en 1897. Je parle de 1917. Allenby, le général Allenby, a pris Jérusalem. La conquête de Jérusalem par Allenby, le général britannique, s'est faite le 24 Kislev. Il est rentré dans la ville le 25. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, derrière la Tachana Merkazit, vous avez une stèle et un monument qui rappelle cet événement. C'est là que Allenby a reçu les clés de la ville. Donc, on peut dire que, et or, la victoire d'Allenby, ce n'était pas une victoire, c'était ce qui permettait de concrétiser la déclaration d'Alfour, qui avait précédé de quelques mois. C'est-à-dire, c'était le retour d'Israël dans la vie politique parmi les nations. Donc, c'est redevenu la liberté. Donc, on est maintenant le thème de la conférence, Hanouka, liberté et lumière. On va savoir, est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est la lumière que nous fêtons? Donc, en fait, il semblerait qu'il y ait une dualité dans la raison de cette fête. Mais si vous réfléchissez bien, en fait, vous verrez que tout ce que je vous dis, c'est totalement faux. Pour une raison très simple. C'est que la victoire contre les Grecs n'est pas une victoire contre n'importe qui. Les Grecs, c'est quoi? C'est l'obscurité. Vous avez qu'à voir dans Bereshit, dans les commentaires sur les Chachamim sur Bereshit, le verset qui dit Ve'aretz eta tohu va'ohu v'choshech al pene tehom. La terre était désordre et dérangement, il y avait l'obscurité au-dessus de l'abîme. Alors, les Gemara explique que tout ce désordre, eh bien, c'est le désordre dans l'histoire. C'est lorsque les empires dominent Israël. Elle dit Tohu, c'est Babylone. Elle amène un verset pour le prouver. Et puis elle dit comment? Tohu, c'est Babylone. Et le petit bébé. Le bébé, c'est ça, l'aiguille de l'homme. Et Bohu, finalement, de tout le coup, vous rappellerez que des vannes, c'est l'avant. Enfin bon. Bohu, c'est la Perse. Chosher, dit le Midrash, eh bien, c'est les Grecs. Tehom, c'est Rome. Ça rime. Et donc, vous voyez bien que la tradition hébraïque considère l'obscurité comme étant attribuable à la Grèce. Donc, une victoire contre les Grecs, c'est une victoire de la lumière contre l'obscurité. Donc, ça rétablit l'unité de la fête. Mais là, c'est très surprenant ce que je viens de vous dire. On pourrait dire même que c'est révoltant. Cette position des Chachamim, qui considèrent que la Grèce, c'est l'obscurité, ça a l'air d'être de l'obscurantisme. Parce que de toutes les civilisations, la dernière à laquelle on attribuerait justement l'étiquette d'obscurité, c'est les Grecs. Les Grecs, ils ont amené sur Terre la philosophie, la science, l'esthétique, la démocratie. Et alors, avec tout ça, vous allez dire c'est l'obscurité? Vous autres, les rabbins, vous ne savez pas quoi vous parlez. Vous comprenez, il y a un problème. C'est-à-dire, depuis quand est-ce qu'on considère une civilisation aussi brillante comme étant source de priorité? En fait, il faut comprendre ça de manière très différente. Les Chachamim ont considéré justement que la Grèce était une forme de lumière. Mais le problème, c'est que nous aussi, nous sommes une forme de lumière. Et donc il y a rivalité entre deux lumières. Donc une lumière obscurcit l'autre lumière.
Vous voyez?
C'est, il y a deux formes d'illumination. Il y a une illumination qui a pour origine la parole prophétique, et ça c'est la spécificité d'Israël.
Il y a une autre lumière
qui a pour origine l'intelligence, et ça c'est la spécificité de la Grèce. Et lorsqu'il y a rivalité entre ces deux lumières, eh bien il y a obscurité. Et ce pourquoi? Là il faut rentrer un peu plus dans le détail. Si vous me permettez, vous avez encore un peu de temps? Je ne sais pas. Parce que moi, l'organisateur m'a dit tout à l'heure que je pouvais parler même 2 heures. Moi, j'ai dit que ce n'est pas suffisant, il m'en faut au moins 4. Et, mais enfin bon, c'est à vous de décider. Si vous en avez marre, vous faites un petit signe comme ça. Je pense quand même que quelques minutes encore supplémentaires vont permettre de bien comprendre de quoi il s'agit. On a l'habitude de dire les Grecs étaient très méchants et les Juifs étaient très gentils. Mais il faut se rappeler que les persécutions d'Antiochos ont duré en tout et pour tout 3 ans. Il y a un midrash qui dit 3 ans et 8 mois. Mais la présence des Grecs en Eretz Israël, c'était 180 ans. Donc, pendant la majorité de la domination grecque en Israël, en Eretz Israël, ça allait bien ici. Et je dirais même plus, lorsque les Grecs ont rencontré pour la première fois le judaïsme, ils ont été éblouis. Par exemple, il y a un élève d'Aristote du nom de... J'ai oublié son nom. Il y a un élève d'Aristote dont j'ai oublié le nom, qui témoigne d'une rencontre entre son maître Aristote et un juif sage, du nom de Shimron. Peut-être Shimron HaTzadik, puisque c'est la même époque à peu près. Il dit qu'Aristote a été fortement impressionné par le juif en question, et qu'il était, ce juif, tellement sage qu'on l'aurait pris pour un grec. Vous comprenez que la louange
qu'est-ce qu'un grec considérait de bien chez un autre, et bien c'est qu'il ressemble à un grec.
Ce qui prouve déjà qu'il y a une sorte de manière de juger ce qui est extérieur à la civilisation hellénistique de manière un peu égocentrique. En tout cas, ils aimaient beaucoup les Juifs. D'ailleurs, ils ont été tellement éblouis que du temps de Ptolémée II Philadelphe,
ils ont décidé de traduire la Torah en grec.
C'est la traduction des Septante. Or, lorsque nous lisons la lettre d'Aristée, la lettre d'Aristée dans laquelle on raconte la manière dont la Torah a été traduite en grec, on se rend compte qu'à Alexandrie, c'était l'euphorie. C'est-à-dire les Grecs étaient tout contents de traduire la Torah en grec. C'était pour eux un événement de réjouissance. Alors que dans la Guémara, on considère qu'au contraire, ça a amené l'obscurité dans le monde pendant 3 jours. Vous voyez à nouveau la rivalité. Les rabbins sont obscurantistes. Ils considèrent que traduire dans la langue et la culture générale, c'est une catastrophe. Il faut peut-être un peu plus comprendre. Les Grecs, quand ils ont décidé de traduire la Torah en grec, pour eux, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils allaient traduire ce livre et lui donner une place d'honneur. Une place d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté des œuvres de Platon et d'Aristote. Ce qui, pour un grec, c'est le schéma. Le plus grand qu'on puisse faire à la Torah, vous vous rendez compte, un livre que nous considérons tellement que nous sommes prêts à le mettre à côté de Platon. Tandis que pour les Juifs, c'est une catastrophe. Comment vous pensez que la Torah, c'est la philosophie? Alors que c'est la parole de Dieu. Mais d'où vient cette confusion? Cette confusion vient de quelque chose de très simple. Lorsque il y a des prophètes en Israël, tout le monde comprend que la Torah est une parole, que cette parole est adressée à quelqu'un. Il y a une identité humaine à qui elle s'adresse. C'est Israël et pas quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où il n'y a plus de prophètes, or c'était le cas à l'époque des Hachmonaïm, la Torah est considérée comme une forme de sagesse. Une sagesse très importante, mais la sagesse est universelle par définition, elle est cosmopolite.
pas à une identité humaine parmi, parmi d'autres. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a sa place à côté des philosophes. Et donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le peuple d'Israël n'a plus de sens. On peut dire que nous sommes très reconnaissants aux Juifs d'avoir préservé ce livre de la disparition pendant si longtemps. Grâce à eux, nous pouvons enfin sauver ce livre de la, de l'oubli, le traduire dans la langue de la culture générale et en faire maintenant une valeur universelle. Les Juifs peuvent maintenant disparaître. Ils ont rempli leur rôle. Ça explique pourquoi dans le Halal ici, nous disons quelque chose de très important. Keshe'amda malchut yavan arecha'a l'amcha Yisrael. Lorsque l'empire sévéra des Grecs s'est levé contre ton peuple Israël, quelle est la suite? L'ashkicham, leur faire oublier quoi? Torah Terra. Alors là, c'est, ça prouve que vous lisez dans les nouveaux Sidourim. Dans les anciens Sidourim Sepharad, le texte, c'était l'ashkicham mi Torah Terra. Simplement, comme les imprimeurs tardifs ne comprennent pas le texte, ils ont pensé qu'il y avait une erreur, ils ont supprimé le même. Et ils ont mis l'ashkicham Torah Terra. Mais le texte original, c'est l'ashkicham mi Torah Terra. C'est ce que dit en toutes lettres Rabbeinu Sarvegor. Et c'est comme ça que c'est imprimé dans le Tefilat HaKodesh, contrairement au nouveau Sidourim prétendument séparé. Eh bien, ça veut dire quoi l'ashkicham mi Torah Terra? Interprétation de l'Ennemito, c'était il voulait faire oublier Israël de la Torah. C'est-à-dire il voulait prendre la Torah et supprimer Israël. C'est-à-dire accepter tout de la Torah, sauf que les Juifs. Et c'est à partir de ce moment-là que se crée un nouveau style de pensée dans lequel la Torah peut être traduite dans beaucoup de langues. La Torah peut être traduite en anglais, en latin, en grec, en russe, en espagnol, et même en hébreu. C'est-à-dire, la Torah en tant que parole adressée à une identité vivante, le peuple juif, cesse d'exister. Et c'est ce point de vue-là que pour nous, la Grèce, c'était le sommet de l'obscurité, voyez-vous. Eh bien, ça explique donc pourquoi, en fait, la victoire politique sur les Grecs était également la victoire de la lumière sur l'obscurité de notre point de vue. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a retour d'une indépendance pour le peuple juif, cela entraîne une transformation au niveau spirituel, et pas le contraire. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'il faut une transformation spirituelle pour accéder à l'indépendance politique. C'est totalement faux. C'est quand il y a liberté que l'on peut enfin commencer à faire quelque chose dans le monde et transformer le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Merci de votre attention soutenue. Et je tiens à rappeler un point technique. L'organisateur Shimshon a demandé à faire une petite levée de fonds pour des familles qui n'ont pas de quoi manger. Et il demande donc à chacun de donner un peu une petite somme, 5 shekels, quelque chose comme ça, que chaque participant donne un peu d'argent. C'est lui qui m'a demandé de le dire à la fin du cours, donc je le dis. Voilà. Bonne fête.